Alors, c'est un message qui va parler des enfants ce matin. Et pendant que les gens recherchent leur le passage, il est bon de se rappeler, de se poser la question aujourd'hui, à peu importe l'âge que nous avons, est-ce que nous avons su garder ce cœur d'enfant? Est-ce que nous avons su garder ce cœur d'enfant? Versets 13 à 15. On amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons jeter un regard dans ta parole ce matin. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Tu connais, Seigneur, les besoins de tous et chacun ici, sans exception. Seigneur, je te prie de pouvoir, Seigneur, répondre à certains de leurs besoins afin qu'ils puissent ressortir d'ici. Seigneur, que tous puissent ressortir d'ici avec la certitude que tu les auras visités, que tu leur auras fait du bien. Seigneur, c'est vrai que si nous voulons écouter ta parole avec nos cœurs d'adultes, avec tout notre bagage d'expérience, bon ou mauvais, il est difficile pour nous, Seigneur, d'ouvrir les oreilles de notre cœur à ce que tu veux nous adresser ce matin. Mais Seigneur, que nous puissions nous replonger dans cette période où nous étions des enfants et que nous étions ouverts, Seigneur, à écouter autour de nous tout ce qui se disait, particulièrement nos parents, sans avoir d'arrière-pensée. Sans pensée subjective. Seigneur, merci encore une fois pour les enfants que tu nous as donnés. Nous te prions, Seigneur, de protéger leur innocence, de les protéger, Seigneur, de ce monde cruel, afin qu'ils puissent garder leur cœur d'enfant jusqu'à ce que tu les rappelles à toi. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Sans vouloir me laisser emporter par les sentiments, je crois que nous pouvons affirmer avec certitude que Jésus appréciait ce moment qu'il passait avec ses enfants et qu'il est arrivé à plusieurs reprises qu'il a pris du temps avec les enfants. J'aimerais examiner avec vous ce matin ces versets qui sont probablement les versets les plus cités concernant Jésus et les enfants et que nous retrouvons également dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 19 et dans l'Évangile de Luc au chapitre 18. Si vous examinez l'Évangile de Matthieu et de Marc, pour ceux qui sont familiers, vous découvrirez que ce temps que Jésus prend avec les enfants vient tout de suite après qu'il ait donné un enseignement sur le mariage et sur le divorce. Et nous savons que ce sont les enfants qui souffrent le plus lorsque survient un divorce. Donc, je pense que ce n'est sûrement pas par hasard que lorsque on va amener les enfants à Jésus, il va en profiter pour transmettre certains enseignements, certaines vérités spirituelles les concernant. Si vous allez dans Luc chapitre 18, vous remarquerez que Luc raconte une parabole, celle du pharisien et du collecteur d'impôts. Que nous ne retrouvons pas, ni dans Matthieu, ni dans Marc. En fait, c'est trois évangiles qui racontent les mêmes événements, mais certains ont décidé de ne pas les raconter, tout raconter, tandis que d'autres les reprennent. Et c'est ce qui se passe avec l'évangile de Marc. Marc va raconter ce qui s'est passé avec Jésus et les enfants, et Luc et Matthieu vont rajouter aussi deux événements importants pour nous, pour mieux comprendre finalement le contexte ici dans lequel nous sommes en train de regarder. Dans le but d'harmoniser les évangiles, il me paraît évident que cette parabole du pharisien et du collecteur d'impôts cadrerait très bien ici entre les versets 9 et 10 de l'évangile de Marc, et au moment où Jésus et ses disciples sont encore à l'extérieur de la maison, et qu'au verset 10, nous apprenons, Marc nous apprend que Jésus et ses disciples vont rentrer à l'intérieur de la maison, ce qui permet à Jésus d'enseigner à ses disciples la parabole que nous retrouvons dans Luc 18 concernant un homme qui pensait savoir exactement comment il pouvait avoir la certitude d'entrer au ciel. C'était un religieux, nous dit le texte, qui était fier d'être religieux et qui s'enorgueillissait, le cœur rempli d'orgueil, ça va être plus facile pour moi à dire, d'être juste et de ne pas être comme le reste des hommes, particulièrement ceux dont les péchés sont si évidents, comme le collecteur d'impôts dans la parabole. C'était le pharisien, c'était quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher, et Jésus va sauter sur l'occasion pour souligner ce fait, que ce ne sont pas les gens qui pensent qu'ils vont aller au ciel, qui vont probablement se retrouver au ciel. Surtout s'ils pensent qu'ils vont entrer au ciel sur la base de mauvaises raisons. Jésus va dire que les gens qui vont au ciel sont ceux que vous n'auriez probablement jamais fait entrer au ciel si cela dépendait uniquement de vous. Et pourtant, Jésus nous enseigne à travers cette parabole du pharisien et du collecteur d'impôts que ce ne sont pas tous ceux qui n'ont rien à se reprocher qui vont entrer au ciel, mais ceux qui reconnaissent comme ce collecteur d'impôts qui sont pécheurs et qui se repentent de leurs péchés. Jésus dit que tous ceux qui n'ont rien à se reprocher n'entreront jamais au ciel. Mais il dit par contre comme ce collecteur d'impôts qui se frappe la poitrine et qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les collecteurs d'impôts, parce que ça peut changer avec les collecteurs d'impôts qu'on a aujourd'hui, mais les collecteurs d'impôts de l'époque de Jésus, c'était des vendus à l'Empire romain, c'était des gens qui collectaient de l'argent auprès du peuple et qui souvent trouvaient le moyen d'en mettre une grande partie dans leur poche. Alors on exploitait le peuple et on surimposait, surtaxait le peuple pour pouvoir mettre une partie qui nous revenait dans nos poches et une partie finalement à l'Empire romain. Et les collecteurs d'impôts, eh bien, ils étaient détestés des Juifs. Ils étaient reconnus comme étant des rapaces, la racaille, des gens qui n'avaient pas de conscience. Et pourtant, dans la parabole ici, Jésus nous montre quelqu'un qui était très religieux, quelqu'un qui allait au temple à tous les jours, quelqu'un qui priait, quelqu'un qui essayait, en tout cas autant que possible, à observer la loi, et qui, dans sa prière, n'a rien à s'approcher. Au contraire, en regardant le collecteur d'impôts, il dit « Merci Seigneur que je ne sois pas comme lui ». Et le collecteur d'impôts, lui, il est écrasé, et dans une grande humilité, eh bien, il se courbe, et dans sa prière, eh bien, il va dire « Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Aie pitié de moi qui n'est pas digne de pouvoir te regarder. » Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit « Quand cet homme s'est levé et qu'il est retourné chez lui, il était en règle avec Dieu, mais pas ce religieux. » Immédiatement après avoir pris un temps avec les enfants, il y a cette rencontre de Jésus avec le jeune homme riche que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu, Luc et Marc. Il est fier de dire, ce jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui lui dit « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Que dois-je faire? Quelles sont les œuvres que je dois faire pour entrer au ciel? » Il est fier de dire à Jésus qu'il a observé tous les commandements, qu'il a fait beaucoup de choses pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus va lui demander de tout vendre, Jésus va le tester, il va dire, écoute, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as pour me suivre. Le texte biblique nous dit qu'il va devenir tout triste parce que les biens qu'il avait accumulés étaient devenus son Dieu. Il avait travaillé tellement d'heures pour ramasser ses richesses qu'il avait perdu de vue que le jour où il mourrait, il ne pourrait même pas amener un seul centime avec lui de l'autre côté. Son Dieu, ce n'était pas l'Éternel des armées, ce n'était pas le Créateur du ciel et de la terre. C'était son argent, c'était ses biens, et il était prêt à mourir pour les choses matérielles plutôt que de se préoccuper de ce que son âme avait besoin plutôt que de regarder du côté spirituel. Et finalement, au milieu de tout cela, Jésus va saisir l'occasion qu'il se trouve d'être entouré par des enfants pour expliquer clairement comment faire pour aller au ciel. Et je pense que ce petit incident de Jésus avec les enfants nous permet de reconnaître ce que nous sommes souvent portés à nier, que le royaume de Dieu, c'est un truc pour les enfants. Le royaume de Dieu, l'Évangile, c'est un truc pour les enfants et non pas pour les adultes. Quand je regarde ce petit bébé qu'on a présenté tout à l'heure, l'innocence de ce bébé, vous lui faites un sourire, il va sourire, qui est innocent par rapport à la vie, qui ne sait pas ce qui l'attend à l'extérieur. On a besoin de prier pour que Dieu protège nos enfants. Parce qu'on sait, nous, en tant qu'adultes, combien le monde est cruel, combien le monde il est sans pitié,
Combien le monde prend plaisir à nous faire souffrir. Comment le monde laisse un nombre incalculable de cicatrices dans notre cœur. Et que quand, à ce moment-là, on met notre cœur d'enfant de côté, et que c'est notre cœur adulte qui commence à sortir, la parole nous dit que notre cœur, il devient aussi dur que de la pierre. Il n'y a plus rien qui peut nous... très difficile pour nous de laisser pénétrer le message de l'Évangile. Parce qu'on entend l'Évangile avec notre cœur d'adulte. Et Jésus ici nous met en garde. Si tu as un cœur d'enfant ce matin, non seulement tu vas entendre l'Évangile, mais tu vas être aussi capable de le recevoir parce qu'à travers le message de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle, Dieu nous donne un espoir, non pas pour seulement pour maintenant, mais pour l'éternité. Et c'est pour ça que l'Église, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que la Belgique, ça a été en tout cas un pays religieux comme le Québec, comme le Canada. On a une image de l'Église avec tout son rituel, tout son cérémonial, toutes ses statues, tout le flafla qui tourne autour de nos cultes. Mais l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les bibelots. L'Église, ce sont les personnes. Jésus est mort pour l'Église, il est mort pour les gens. Il est mort pour que des gens puissent se joindre à sa famille. L'Église, c'est une famille qui n'est pas parfaite, qui a des hauts, qui a des bas. L'Église, ce n'est pas le paradis. Mais le Seigneur a choisi de faire en sorte que nous puissions passer l'éternité avec lui. Passer l'éternité avec lui. Ce matin, tout ce que je peux vous encourager pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Église, qui ne sont pas familiers avec la parole, allez dans une bonne librairie, achetez-vous une Bible et commencez à lire le message de Dieu. Vous allez avoir votre cœur qui va être rempli d'espérance. Parce que le monde dans lequel nous baignons n'a rien de bon à nous offrir. C'est des mauvaises nouvelles à la journée, à la semaine, et dans 6 mois, ce n'est pas ce qui peut survenir dans ce monde qui est complètement déboussolé. Mais Dieu nous a prédit d'avance ce qui arriverait. C'est ça qui fait la crédibilité de la Bible. Des siècles avant que les événements arrivent, la Bible nous a seulement prédit, mais c'est arrivé. La Bible, elle est crédible. La Bible, ce n'est pas une philosophie, c'est Dieu qui est derrière ce livre. C'est Dieu qui a partagé aux hommes ce qui arriverait. C'est Dieu qui a partagé aux hommes qu'il y aurait une fin un jour. C'est Dieu qui a partagé aux hommes qui leur laisse la liberté de choisir, vous passez l'éternité avec moi ou sans moi. Mais en attendant, le temps que vous êtes sur la terre, moi, je veux entrer dans votre cœur par mon Saint-Esprit et vivre avec vous. Vous ne serez jamais plus seul. Vous avez des problèmes, bien venez, confiez-les au Seigneur. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Maintenant, ce que je vous dis là, ça peut être du charabia pour quiconque ici ce matin, si vous entendez cette parole avec un cœur d'adulte. Mais si vous l'écoutez avec un cœur d'enfant, le Seigneur, par son esprit, va laisser pénétrer sa parole dans votre cœur. Et à ce moment-là, tout est permis pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est dans ce contexte que nous lisons au verset 13 que des parents amenèrent des petits-enfants à Jésus afin qu'il les touche. Et l'enseignement que Jésus donnait et les miracles qu'il accomplissait s'étaient répandus dans tout le pays de telle sorte que les parents qui désiraient le meilleur pour leurs enfants les amenaient à Jésus. Imaginez la scène. C'est pareil comme quand on va voir le Père Noël. Hein? Vous savez, quand il y a le Père Noël qui rentre dans une galerie, dans la galerie Cora ou ailleurs, il y a toujours son petit trône, il est assis sur un siège, et là, les parents font la file avec les enfants, afin que l'enfant soit photographié avec le Père Noël, et puis qu'il ait peut-être un petit cadeau. Et ici, c'est à peu près la même chose. Jésus est dans une maison avec ses enfants, avec ses disciples, il vient d'entrer dans une maison. Les parents font la file avec leurs enfants pour qu'ils puissent rencontrer Jésus, pour que Jésus puisse prier pour eux et qu'ils puissent les bénir. Et leur comportement est facilement compréhensible et nous aurions fait sûrement, frères et sœurs, la même chose. Mais regardez comment les disciples, la réaction des disciples ici. Les gens amenaient leurs enfants à Jésus pour qu'ils les touchent et les disciples vont leur faire des reproches. Pour une raison que nous ignorons, les disciples vont empêcher ces gens de s'approcher de Jésus. Peut-être qu'ils ont pensé que Jésus en avait assez, c'est possible. Mais il y a fort à parier que ce sont eux plutôt qu'il y en avait assez de voir les gens s'approcher de Jésus. Nous savons que les disciples se trouvaient dans la maison avec Jésus et qu'ils étaient en train de lui poser des questions concernant l'enseignement qu'il avait donné sur le divorce et sur le mariage. Et que le fait de voir tous ses parents qui amenaient leurs enfants à Jésus les a sûrement dérangé. De toute façon, on ne connaît pas vraiment la raison, le texte biblique ne nous donne pas la raison, mais une chose est certaine, les disciples ne voulaient pas voir les parents amener leurs enfants à Jésus. Quelle sera la réaction de Jésus? Verset 14 ici, pour ceux qui ont leur Bible. Quand Jésus vit cela, il s'indigna. Et la réaction de Jésus, elle est parfaitement compréhensible. Parce que la réaction des disciples était tout à fait injustifiée. Ils étaient lents à comprendre. Ils n'avaient jamais vu Jésus refuser d'aider qui que ce soit. Rappelez-vous, après la mort de Jean-Baptiste, il va quitter la ville de Nazareth en empruntant une barque pour se rendre dans un endroit isolé. Mais les gens vont apprendre où il s'en va. Ils vont sortir des villes. Ils vont suivre Jésus en marchant à bord de l'eau. Et lorsque Jésus va sortir de la barque, il va voir une grande foule devant lui. Et il va avoir le cœur, le texte biblique nous dit qu'il a eu le cœur rempli de compassion, rempli de pitié pour ces gens, et qu'il va se mettre à guérir les malades. Et quand le soir sera venu, les disciples vont s'approcher de Jésus et lui dire, « Seigneur, il est déjà tard et on est dans un endroit isolé. Renvoie la foule. » Encore une fois, c'est « renvoie la foule. Renvoie les enfants, renvoie la foule, » diront les disciples, pour qu'ils aillent dans les villages pouvoir s'acheter de la nourriture. Et Jésus va leur répondre, « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent, « Écoute, Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Il y a plus de 5 000 personnes, sans compter les... Il y a plus de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5 pains, 2 poissons. » Ils n'avaient pas encore compris ce que nous n'avons pas nécessairement, nous autres aussi, compris encore aujourd'hui, que rien n'est impossible à Jésus et qu'il est encore capable de faire des miracles. Et que ce n'est pas le nombre de personnes et ce n'est pas la grandeur du problème qui peuvent l'empêcher d'accomplir des miracles. Chers amis, malgré le fait que les disciples étaient quotidiennement avec Jésus, ils continuaient à penser d'une façon purement humaine. Si vous allez au chapitre 9, à partir du verset 33, juste le chapitre avant, dans l'Évangile de Marc, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ils vont arriver à Capernaum. Et quand Jésus va être dans la maison, il va demander à ses disciples, « Excusez-moi, de quoi vous discutiez en chemin? Pourquoi vous discutiez ensemble en chemin? Je vous entendais chuchoter. De quoi discutiez-vous ensemble? » Et le texte nous dit, « Mais ils se taisaient. Ils se taisaient, ils étaient gênés de raconter à Jésus de quoi ils parlaient. Ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. » Alors Jésus va s'asseoir, il va appeler les 12 disciples, il va leur dire, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ça fait toute une différence avec l'enseignement qu'on reçoit dans le monde. Hein? Si tu veux être le premier, écrase tout le monde, fais ta place, sois sans pitié. Si tu veux réussir dans ta vie, bouscule les gens, fais ta place. Et Jésus dit, « Mais dans le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. Tu vas être le premier, considère-toi comme le dernier. Tu vas être un leader, tu n'es pas là pour être servi, tu es là pour servir. Quelle différence! Il n'y a pas de contremaître dans le royaume de Dieu. Le contremaître, c'est celui qui est appelé à servir et non pas à être servi. » Alors Jésus va parler à ses disciples. Il va dire, « Celui qui reçoit un de ses petits-enfants à cause de moi me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit non seulement... ne me reçoit non seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Et les disciples n'avaient encore rien compris. Ils étaient devenus une barrière plutôt qu'un pont entre les gens et Jésus. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que l'Église peut devenir une barrière plutôt qu'un pont entre les gens et Jésus? Est-ce que vous savez que vous et moi, nous pouvons devenir une barrière plutôt qu'un pont entre les gens et Jésus? Nous pouvons vivre très proche de Jésus, penser que nous connaissons tout sur Jésus, et en arriver quand même à essayer d'empêcher les gens, comme les disciples, de s'approcher de Jésus par notre comportement. Au verset 14, il est écrit qu'il était indigné et qu'il va leur dire, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. » À ceux qui sont comme eux. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à son père dans Matthieu 11, 25. « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé ces choses aux petits-enfants et de les avoir cachés aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce que cela t'a plu de le vouloir. Jésus connaissait les enfants, il va montrer ce qu'ils représentaient pour lui lorsque le moment viendra de faire comprendre l'Évangile et le royaume à ses disciples. En d'autres mots, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux, dit Jésus. Il va dire tout cela alors qu'il n'avait pas encore compris, il n'avait pas encore pris un seul enfant dans ses mains, dans ses bras, pardon. Et au verset 15, Jésus nous révèle ce que son enseignement implique. Il dit d'abord au verset 14, « Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. » Et au verset 15, il ajoute, « Je vous le déclare, c'est la vérité, peu importe qui vous êtes, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Je ne pense pas que Jésus est en train de dire ici que le royaume de Dieu appartient aux enfants parce qu'ils ne sont pas compliqués, parce qu'ils sont honnêtes, ou parce qu'ils sont sans prétention, pardon, et ainsi de suite, et que ce sont seulement ceux qui affichent ces caractéristiques qui peuvent entrer, ou ces qualités qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Parce que vous conviendrez avec moi, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, ou qui ont déjà gardé des enfants, qui ont été souvent en contact avec des enfants, ce ne sont pas tous les enfants qui manifestent constamment, ces qualités, ou qui agissent toujours de cette façon, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui ne sont pas toujours simples. Il y a des enfants qui ne sont pas toujours honnêtes. Il y a des enfants qui ne sont pas toujours sans prétention, qui ne disent pas toujours la vérité. Certains sont capricieux, d'autres difficiles à supporter, tandis que d'autres sont aimables, gentils, mais ils sont toujours des enfants. Avant de continuer ce message, permettez-moi de vous poser une question ce matin. Avez-vous toujours ce cœur d'enfant qui vit en vous? Ou l'avez-vous perdu parce que quelqu'un vous a fait trop de mal et que vous avez dit c'est terminé? Il n'y a plus personne qui va me blesser. Il n'y a plus personne qui va me faire du mal. C'est ça un cœur d'adulte, hein? Porte un masque. Et le masque, il démontre qu'on a mis notre cœur d'enfant de côté pour garder un cœur adulte. Et c'est terminé, on ne se laisse plus marcher sur les pieds. C'est terminé. D'entendre l'Évangile, ça devient un truc pour enfants seulement, mais plus pour moi. J'espère que ce matin, dans cette salle, vous avez encore tous ce cœur d'enfant. Parce que si vous avez un cœur d'enfant, le Seigneur Jésus qui a de l'espoir pour vous pour entrer dans le royaume de Dieu, malgré tout ce que vous avez vécu. Et Dieu non seulement est capable de guérir, non seulement de soigner vos blessures, il est aussi capable de les guérir. Il est aussi capable de vous donner cette paix, cette joie dont le monde court tant après. Dans les discothèques, dans les foires, dans la boisson, dans la drogue, dans le sexe, à droite et à gauche, et qu'ils ne sont jamais rassasiés. Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Nous avons été créés pour vivre une relation avec le Créateur. Et on peut dire ce qu'on veut, si on n'a pas ces éléments-là entre en nous. Et bien, on court après le plaisir, on n'est pas heureux. Jésus ne demande pas que nous puissions nous comporter comme des enfants, il veut simplement nous enseigner que nous devons être objectifs comme des enfants dans notre façon de penser, plutôt que d'être subjectifs. Et c'est ce qui est extraordinaire d'avoir un cœur d'enfant, on reste objectif. On ne voit pas le mal derrière tout ce qu'on est en train de nous dire. « Ah oui, mais je sais pourquoi il me dit ça, parce qu'il veut me coincer comme ça. Ah oui, je sais pourquoi il me dit ça, oui. Il veut essayer de m'attraper. » C'est une arnaque derrière tout ça. L'enfant, je me souviens de mes enfants quand ils étaient tout petits. Je le mettais sur la table, je me reculais 1,5 mètre, je disais « Lance-toi dans les bras, papa. » Jamais il n'aurait pu douter que je me serais enlevé. Jamais. Et je devais leur dire, hey, pas trop vite, attends, je me place comme il faut. Ils sautaient tout de suite. Tout de suite, j'avais terminé, ça sautait. Ça, c'est un cœur d'enfant. Ça, c'est ça, être objectif. C'est pas l'enfant qui dit, oui, mais papa, tout à coup, tu t'enlèves, papa. Non, mais tu vas me laisser tomber. Mais l'adulte dirait ça, par contre. Attends un peu, mets des matelas. Mets une pile de matelas au cas que tu déciderais de changer d'idée. C'est vrai, mais c'est ça, être subjectif. C'est ça, avoir un cœur d'enfant. On se méfie de tout. Et pourquoi? Pas parce que Dieu nous a fait du mal. Parce que le monde qui vit sans Dieu est méchant, il nous fait du mal. Si Dieu avait voulu notre malheur et notre perte pour l'éternité, jamais il se serait fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Jamais il serait monté sur cette croix pour payer le prix que la loi exigeait pour vos péchés. Jésus a porté vos péchés, mes péchés, sur lui à la croix. Je vais vous donner un exemple. Prenons ce livre ici, la Bible. Disons que c'est la liste de tous vos péchés, tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Jésus, la Bible nous dit qu'il est sans péché, c'est Dieu. Dieu fait homme. À la croix, vous savez ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a porté sur lui vos péchés. La liste de mes péchés qui me condamnait, dit Paul, Jésus les a pris sur lui. Il a été puni pour mes péchés. Et en retour, la page blanche qui était sur Jésus, elle vient dans ma main. Et Dieu me dit, si tu acceptes ce message, si tu es prêt à reconnaître que tu es un pécheur ce matin, si tu es prêt à reconnaître que tu ne peux rien faire pour gagner ton ciel, que tu es prêt à donner tes péchés à Jésus pour qu'il les porte sur cette croix, tu deviens mon enfant. Tu as une espérance vivante pour l'éternité. Et un jour, je vais te donner un nouveau corps, glorifié, un corps qui n'aura plus de maladie, qui ne connaîtra plus la mort. Ça, c'est le message de la Bible. Ça, c'est ça qui est l'espérance pour les chrétiens. La mort n'est pas la fin de tout. La mort n'est pas la fin de tout. On a fait le service d'une dame ici, il y a quelques semaines. 97 ans. Elle était malade. Je venais la voir, elle disait, « Ne priez pas pour ma guérison, j'ai assez hâte de partir. » Elle était déjà branchée, connectée avec le Père dans le paradis. « Ne priez pas pour moi, s'il vous plaît. » Frères et sœurs, le croyant, il sait qu'il n'y a aucune espérance dans ce monde. Parce que le monde n'a pas de parole, mais il place toute sa confiance dans le Seigneur. Parce qu'il sait que le Seigneur, ce n'est pas un menteur. Et que le Seigneur, ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Amen. Ouais. Nous qui sommes des adultes, nous pouvons trouver cela difficile d'accepter cette vérité. Pourtant, les enfants sont capables de comprendre cela. Jésus va alors prendre un enfant au milieu de la pièce et dire, « Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, comme cet enfant sans défense, vous n'entrerez jamais dans le royaume dont j'ai la charge, et ce, peu importe qui vous êtes. » Et lorsque l'apôtre Paul va s'adresser à l'église de Corinthe, il va dire ceci, « Considérez, frères, quels sont ceux que Dieu a appelés à former votre groupe du point de vue humain. Peu de sages, peu de puissants, peu de membres de familles importantes. Pourquoi? » Parce que Dieu fait entrer dans son royaume ceux qui reconnaissent leur petitesse et leur impuissance. Paul dit, Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce que le monde estime faible pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, ce qui n'est rien à ses yeux, pour détruire ce qu'il estime important. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il n'y a pas beaucoup de nobles parmi vous. Il n'y a pas beaucoup de philosophes parmi vous. Il n'y a pas beaucoup de patrons d'entreprise parmi vous. Il n'y a pas beaucoup de boursiers dans votre église. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les adultes n'aiment pas ce truc d'enfant. Ils ne veulent pas se mettre à genoux. Ils se disent en eux-mêmes, j'ai travaillé tellement fort pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je n'accepterai jamais cette folle idée de devenir comme un enfant. Parfait, mais vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Jamais, dit Jésus. À cette époque, ceux qui avaient réussi dans la société romaine, ceux qui appartenaient à une certaine classe dans la société, n'acceptaient pas le fait que le christianisme prospérait parmi la racaille que l'on retrouvait dans la société méditerranéenne. Le monde dans lequel nous vivons nous demande de faire des efforts, de faire de bonnes œuvres et d'essayer d'établir beaucoup de contacts pour pouvoir s'offrir une place enviable dans la société. La façon de Dieu, elle est différente, c'est la suivante. À moins que vous ne deveniez comme un enfant, que vous ne deveniez comme un petit enfant, vous ne réussirez jamais à vous faire une place dans le royaume de Dieu. Quel défi, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde de réalisation, dans un monde de compétition. Peu importe l'endroit où vous allez, peu importe ce que nous faisons et peu importe le cercle d'amis que nous fréquentons, tout tourne autour de ce que nous avons fait, de ce que nous avons accumulé et comment nous y sommes pris pour y arriver dans la vie. Verset 16. Ensuite, Jésus prit les enfants dans ses bras. Il posa ses mains sur chacun d'eux et il les bénit. Quelle belle démonstration d'amour, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que les disciples se sentent à l'aise? Ils devaient être plutôt nerveux, chacun d'eux sans exception. Ils devaient regarder tous vers le sol, quelque peu honteux de ce qu'ils avaient fait. Eux qui cherchaient peu de temps avant de savoir qui était le plus grand dans le royaume de Dieu. Jésus prenait dans ses bras les enfants qu'on lui avait amenés. Et Dieu aime particulièrement les enfants. Dieu sait que les enfants, ils sont fragiles. Et Dieu prend l'engagement à travers ceux qui lui appartiennent, lorsqu'on les présente au Seigneur, de veiller sur leurs enfants. Il cherche encore aujourd'hui, Jésus offre encore aujourd'hui aux gens de faire partie d'un royaume qui va durer éternellement. Et pourtant, les gens voient cela comme étant une sorte d'arnaque pour profiter d'eux. Les gens n'en veulent pas. Ceux qui vivent bien ne veulent pas de ce truc pour enfants qu'est l'Évangile, parce qu'ils préfèrent rester dans leur truc à eux. Et pourtant, Jésus recherche et invite encore aujourd'hui les hommes et les femmes qui ont un cœur d'enfant à entrer dans le royaume de Dieu. Il cherche encore aujourd'hui à rassembler les gens autour de lui, à les voir venir vers lui comme des petits-enfants, parce qu'encore aujourd'hui, il veut les prendre dans ses bras et il veut les réconforter. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. »